L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Épisode 19, la Révolution française, deuxième partie, les étincelles de l'été 1789. Lors du précédent clin d'œil à l'histoire, nous avons étudié l'ensemble du contexte en France qui expliquait les origines de la crise majeure qui sévissait dans les années 1780. Crise climatique, avec les hivers très durs du début de la décennie qui ruina les récoltes. Crise économique, causée d'abord par les mauvaises récoltes qui entraînèrent l'inflation, puis par l'effondrement du prix des matières premières qui mit à genoux toute la paysannerie française. Crise financière, qui s'explique par la mauvaise gestion des prêts bancaires après le départ de Necker. Crise budgétaire, dont l'origine se trouve en Amérique, avec l'intervention française dont les expéditions ruinèrent le trésor. Crise sociale, qui se cristallisa autour des tensions entre les États privilégiés et les autres. Et enfin, une crise politique, puisque les classes dirigeantes ne parviennent plus à remettre le royaume sur les rails et qui doit recourir à une ultime solution pour créer l'impôt censé renflouer les caisses de l'État. La convocation des États généraux. Mais les négociations entre le gouvernement et les députés qui représentent le peuple de toutes les provinces du royaume s'annoncent très difficiles. Les cahiers de doléances sont remplis de revendications contradictoires et l'opposition entre les privilégiés du clergé et de la noblesse face au tiers-état, qui représente 98% de la population du royaume, n'a jamais été aussi forte. Entre les deux, le roi, qui garde le soutien et le respect de sa population, n'est pas encore contesté. Mais ce mois de mai 1789 est le début de la déchéance de la monarchie française, car très rapidement, le roi perd complètement le contrôle de la situation. Sans doute a-t-il trop sous-estimé les tiers-états qui, soutenus par une population épuisée après une décennie de crise, est prêt à renverser la société. Pour autant, il n'est pas encore une cible pour les révolutionnaires dont l'ambition est, comme nous l'avons vu lors de notre précédent clin d'œil à l'histoire, de mettre fin à la société en trois ordres. Mais le bouillonnement qui secoue la France au cours de cet été 1789 permet de déjà forger un socle idéologique fort qui guida ensuite tous les révolutionnaires les plus zélés, quitte à mettre la France et l'Europe à feu et à sang pendant plus de 20 ans.
Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce moment précis de la Révolution qui a tout fait basculer. Comment l'été 1789 engage la France dans un processus révolutionnaire qui a réussi à abattre en l'espace de 2 mois une hiérarchie sociale et politique qui régissait le royaume depuis près de 800 ans. Pour mieux comprendre, nous allons aujourd'hui nous intéresser à ces moments clés où tout bascule, avec comme premier acte la réunion des États généraux. Puis, nous verrons de quelle manière tous les bouleversements et une succession d'événements ont provoqué le renversement de la société d'Ancien Régime pour aboutir à une illusion, à une société relativement pacifiée et unie autour de son roi, qui apparaît comme un pilier de la Révolution à l'été 1790, c'est-à-dire à un moment où l'on pense que la Révolution française est déjà terminée. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107FM. Raphaël, la dernière fois, nous nous étions arrêtés à la cérémonie d'ouverture des États généraux dans la salle des menus plaisirs à Versailles le 5 mai 1789. On avait mis l'accent sur les grandes dissensions qui divisaient les députés nobles et clercs face aux députés du tiers-état. Le conflit semble inévitable.
Oui, et ce d'autant plus que ces députés ne viennent pas avec les mêmes intentions. Le gouvernement n'avait convoqué ces états généraux que pour régler une situation financière désespérée avec le soutien des députés des ordres privilégiés. Mais les cahiers de doléances du tiers état montrent une volonté réelle du peuple de limiter l'arbitraire royal par une constitution et de reconstruire une société plus égalitaire.
Oui, c'est vraiment ce qui s'appelle partir du mauvais pied.
Oui, d'autant plus que lors de la séance d'ouverture du 5 mai, le roi et Necker font un discours où seule la question financière est abordée. Les principales revendications politiques du tiers état sont totalement éludées. Par exemple, rien n'est mentionné au sujet du mode de vote. Jusqu'alors, chaque ordre représente une voix. Donc, le tiers d'État, qui représente 98% de la population et qui compte plus du double du nombre de députés que chacun des deux autres ordres, est systématiquement placé en minorité face aux privilégiés. Par conséquent, et pour une plus grande équité, ils souhaitaient la mise en place d'un vote par tête qui leur aurait donné un poids nettement plus important, mais rien n'est alors dit à ce sujet.
Le climat est donc, on l'aura compris, extrêmement tendu dès le début. Comment se déroule la suite des discussions ?
Mal, vous l'aurez deviné. Le tiers-État s'entête à privilégier la question politique avant la question financière. Après plus d'un mois de réunion, les députés du tiers-État commencent à se connaître et prennent un peu plus conscience de leurs forces. Et le 17 juin, cela débouche sur de nouvelles revendications. Les députés du tiers-État, rejoints par quelques curés, se proclament Assemblée nationale et décident de ne s'occuper de la question financière qu'après avoir rédigé une constitution.
On est donc déjà à un tournant de ces états généraux qui sont complètement détournés par la députée du tiers. Et comment réagit le roi ?
Et forcément, il réagit plutôt mal. Le 20 juin, il prend le parti des privilégiés et décide de casser cette décision. Pour empêcher les délibérations de ses députés du tiers état, il fait fermer leur salle de réunion habituelle. Et ces derniers se replient donc sur la plus grande salle disponible à l'extérieur du château de Versailles, c'est-à-dire la salle du jeu de pommes. Et là, ils font le fameux serment du jeu de pommes rédigé par les députés Sieyès et Mounier.
L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle continue ses délibérations dans quelques lieux qu'elle soit forcée de s'établir et qu'enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale, arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que le dit serment étant prêté, tous les membres et chacun d'entre eux en particulier confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable.
Donc le tiers état passe outre le roi, et il laisse encore faire. Il n'intervient pas davantage parce que là, c'est quand même son pouvoir absolu qui est directement menacé.
Mais en fait, il n'a pas vraiment le choix. Certes, il essaie le 23 juin d'intimider lors d'un discours les députés du tiers, mais sans succès. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que se déroule cette célèbre scène de la Révolution française.
Déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances.
Vive le roi !
De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ?
Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale.
Vous avez tous entendu le roi ! Vous donnez l'ordre de vous disperser !
Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Après ce jour-là, le roi envisage sérieusement de réprimer cette révolte par la force. Mais l'effervescence populaire est forte. En plus, une partie du clergé ainsi que 47 députés nobles sont conciliants avec cette Assemblée nationale. Le roi est donc contraint de reculer. Le 9 juillet 1789 est solennellement proclamée l'Assemblée nationale constituante. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas 107 FM. Nous sommes donc en juillet 1789 et l'été qui suit devient l'un des plus importants de l'histoire de notre pays avec des dates que tout le monde connaît. Mais c'est véritablement en fait une charnière de la Révolution, le moment où l'on bascule un peu plus dans la violence, Raphaël.
Oui, les luttes politiques vont devenir de plus en plus saillantes et violentes. La cour royale et ses partisans tiennent à la revanche. Ils estiment que les états généraux ont été dévoyés par les députés du tiers état et que l'Assemblée nationale est un crime de lèse-majesté. Des troupes sont réunies autour de Versailles en vue d'un coup de force contre l'Assemblée. Elles sont principalement composées de régiments étrangers. Et le 11 juillet, le roi renvoie Necker, le populaire ministre des Finances, mais qui était aussi à l'origine de la réunion de ces états généraux si désastreux pour Louis XVI. Et l'émotion est très vive à Paris. Les bourgeois s'organisent et nomment même un comité permanent chargé de préparer la défense de la ville au cas où. C'est une véritable municipalité révolutionnaire. Pour armer cette nouvelle garde dissidente, les Parisiens se rendent donc à l'hôtel des Invalides où ils récupèrent environ 40 000 fusils, des canons et un mortier. Et le tout avec le soutien de l'armée qui les laisse passer pacifiquement. Puis, les Parisiens se rendent en fin de matinée à la prison de la Bastille où sont stockées la poudre et les munitions.
Et voilà, nous comprenons maintenant que nous nous dirigeons vers le premier épisode violent avec la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. La Bastille, qui, comme tu l'as dit, était une place forte au cœur de Paris, jouant à la fois le rôle de réserve d'armes, de poudrière, mais aussi de prison. Et pourquoi en fait avons-nous retenu cet événement comme l'un, si ce n'est le plus important de la Révolution française ?
Parce que la prise de la Bastille, c'est à la fois un symbole et un tournant. D'abord un symbole parce que, pour rappel, la Bastille, c'est la prison royale où sont détenus tous ceux qui sont emprisonnés de façon arbitraire par le roi, par ces fameuses lettres de cachet qui peuvent condamner n'importe qui sans procès. Elle est donc le symbole du pouvoir absolu de Louis XVI. Par ailleurs, cette place forte est armée de canons qui sont, à ce moment-là, tous dirigés vers Paris. Les bourgeois demandent donc, ce 14 juillet, à son gouverneur de les retirer. Enfin, la prise de la Bastille et le stock d'armes qu'il y a permet de doter l'Assemblée d'une véritable force armée capable de la défendre.
Et que deviennent tous les prisonniers qu'on trouvait dans la Bastille ? Est-ce qu'ils sont venus grossir les rangs des révolutionnaires ?
Pas du tout. À ce moment-là, la Bastille ne détient que 7 prisonniers. Et pour le coup, cela n'avait rien de symbolique puisqu'il s'agissait de 4 faussaires, 2 démons, dont un qui aurait eu pour projet d'assassiner le roi, et un noble accusé d'inceste. Une fois libérés, il semble qu'ils soient tous retournés vivre leur vie sans prendre part à la Révolution. Aucun n'était vraiment un opposant politique.
Est-ce que l'événement de la prise de la Bastille a été violent ? Parce que on parle quand même de l'une des journées fondatrices de notre démocratie.
Oui, ça a été violent. Le gouverneur de Launay était à la tête de la prison et commandait une garnison de 124 hommes, dont 82 invalides. Après l'échec des négociations avec une petite délégation de membres du comité permanent, environ 900 Parisiens ouvrent le feu sur les défenseurs de la Bastille. À 17h, c'est la débandade. De Launay capitule. Tous ces hommes sont alors massacrés. Il n'y a que 3 hommes parmi tout cela qui ont été épargnés. Delaunay est amené place de la Grève où il est lynché, poignardé, fusillé, décapité par un boucher et sa tête plantée au bout d'une pique et promenée dans les rues de Paris. Du côté des assaillants, on compte 98 morts et une 60aine de blessés. Le lendemain, on commence à raser la Bastille. Donc oui, nous pouvons dire que ça a été extrêmement violent.
Et ce premier acte de la Révolution préfigure bien ce qu'il va se passer par la suite. D'ailleurs, quelles sont les conséquences immédiates de ce coup de force de la milice parisienne ?
Le roi apprend l'événement de la bouche de son grand maître de la garde-robe.
Et c'est là que, selon la légende, le roi lui aurait demandé « c'est une révolte ?» et l'autre aurait répondu « non, sire, c'est une révolution ».
Oui, nous sommes alors le 15 juillet et Louis XVI, qui était à la chasse à Marly, rentre en catastrophe à Versailles, retrouver des députés nobles favorables à la Révolution qui le poussent à renvoyer les troupes stationnées autour de Paris. Le 16 juillet, il rappelle une nouvelle fois Necker, puis le 17, il se rend à l'hôtel de ville de Paris où l'attendent de nouveau le tout nouveau maire de Paris, élu par le comité permanent. Il s'agit de Bailly, qui était aussi, rappelez-vous, le premier président de l'Assemblée nationale que l'on a entendu dans l'extrait vidéo tout à l'heure, et le marquis de Lafayette, qui vient d'être nommé commandant de la toute nouvelle garde nationale, nom de la milice bourgeoise parisienne créée par le comité permanent. Et sur le balcon de l'hôtel de ville, et sous les acclamations, il coiffe une cocarde tricolore qui devient alors le symbole de la Révolution. Il entérine alors l'existence d'une Assemblée nationale constituante, qu'il avait jusque-là combattue, accepte le coup de force du peuple qui s'est armé contre le pouvoir absolu, et reçoit les hurrahs des Parisiens qui ce jour-là ne crient pas « Vive le roi !» mais « Vive la nation !»
Et comment réagissent les ordres privilégiés devant cette forte poussée de la bourgeoisie parisienne et la nouvelle influence de l'Assemblée nationale constituante ?
Elle réagit plutôt très mal, à l'image des grands-pères de France qui comprennent maintenant que la situation est en train de totalement échapper au roi. Par exemple, le comte d'Artois, frère de Louis XVI, exhorte son frère de déplacer la cour à Metz pour se rapprocher de ses alliés étrangers. Mais le roi décline cette proposition, chose qu'il regretta d'ailleurs plus tard car il resta ainsi sur l'épicentre de la Révolution. Louis XVI condamne la vision ultra-répressive de son frère, qui est aussi l'un des plus grands adversaires du tiers-état. Et le 16 juillet, il décide donc de quitter le pays. Il est le premier noble à émigrer. Il parcourt alors l'Europe à la recherche d'appuis solides à la cause royaliste et ne revient en France que beaucoup plus tard, notamment pour recevoir en 1824 la couronne sous le nom de Charles X.
Je vois, c'est donc quelque part lui qui ouvre la voie à tous ces nobles et seigneurs qui prennent peur dès le mois de juillet 1789, et on sait que ce mouvement d'émigration de la noblesse a duré tout au long de la Révolution.
Oui, et ce mouvement est même amplifié dans les campagnes par l'immense colère et la peur de la paysannerie française. Un peu partout dans les provinces, on commence à s'agiter. Des rumeurs commencent à circuler au sujet de représailles organisées par les seigneurs des campagnes à la suite de la prise de la Bastille par les Parisiens. À cela s'ajoute la crainte que des brigands déclenchent des raids dans les campagnes. C'est le début de ce qu'on appelle la Grande Peur. Ces vents de panique poussent les paysans, les ruraux et les bourgeois des petites villes à s'attaquer aux maisons seigneuriales pour récupérer des stocks de grains et éviter que les élites s'accaparent quelques peu de ressources encore disponibles. Le Gévaudan n'est d'ailleurs pas épargné, puisque le 30 juillet 1789, le maire de Mende est alerté par celui de Villefort, je cite, qu'une troupe de brigands de plus de 10 000 hommes, sortie des montagnes du Piémont et de Savoie, s'est répandue dans le Dauphiné, qu'une partie a déjà dépassé le Rhône et s'est avancée jusqu'au Vivarais, ravageant tous ceux qu'il rencontrait et mettant ainsi tout à feu et à sang. Ce maire reçoit ensuite le 1er août une nouvelle lettre alarmante du premier consul de Saint-Chély-d'Apcher et encore une autre le même jour annonçant que les Cévennes sont déjà attaquées. Et tout ça n'est que rumeur, tout ça n'est pas avéré. Mende transmet à son tour cette grande peur en l'amplifiant. Je cite, « On avertit les consuls de Bagnoles, d'Olinque, de La Rouvière, du Chastel-Nouvelle, de Badaroux, de Lannuéjol, de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunais, de Lacanourgue, du Malzieu, que 15 000 hommes sont entrés dans le Vivarais et le Dauphiné. On invite à faire mettre toute la communauté et les paroisses voisines sous les armes pour leur donner secours. »
Eh bien, on comprend bien comment ce mécanisme a pu déclencher et exagérer cette fameuse grande peur qui crée la panique dans des provinces isolées comme les Gévaudan. Bon, pour rester local, quelles ont été les conséquences pour ce mouvement paranoïaque ici?
La grande peur a eu des répercussions durables dans le temps jusqu'à l'été 1790. Des domaines seigneuriaux ont été ravagés, comme ce fut le cas à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunais. Des fermiers ont pu être menacés de mort, les impôts ne sont plus payés et une émeute est même signalée pour le mois de juin 1790. À Mende à cause de la misère dans laquelle était réduite la population.
On imagine l'ampleur qu'a pu avoir cette grande peur dans tout le royaume. Est-ce qu'elle a eu une influence sur le déroulement des événements?
Oui, bien sûr. Déjà, ces jacqueries participent à l'augmentation du nombre d'émigrés. Mais surtout, cette série d'émeutes, d'ailleurs parfois réprimées durement par les gardes nationaux, présents dans les provinces, rappelle à l'Assemblée nationale que la rédaction d'une constitution n'est pas du tout la priorité pour le monde rural. Ce que l'on voyait sur les cahiers de doléances, remplis dans les campagnes, c'était des dénonciations du système féodal. L'Assemblée nationale se décide donc à casser ce modèle de soumission des paysans aux seigneurs. C'est la proclamation de l'abolition des privilèges, rédigée et votée la nuit du 4 août 1789.
On écoute les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. Article 1er.
L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que consensuels, ceux qui tiennent à la main morte privilège sur droit de succession au Moyen-Âge sur les biens et les serfs, et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale.
Article 3.
Le droit exclusif de la chasse séparément aboli, et tout propriétaire a le droit de faire détruire seulement sur ses possessions toute espèce de gibier.
Article 4.
Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité.
Article 5.
Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu sont abolies.
Article 7.
La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement.
Article 11.
Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession n'emportera dérogeance.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas, 107 FM. Si on doit résumer la série de décrets qu'on vient d'écouter, on peut dire que la nuit du 4 août 1789 met finalement un point final. Pourquoi la nuit du 4 août? Je dis la nuit du 11 août.
Non, mais c'est parce que les décrets, les principaux ont été pris le 4 août et après on en a voté des supplémentaires jusqu'au 11 août en fait.
Ok. Du coup,
tu peux dire. En fait, on retient la nuit du 4 août parce que c'est là que les principaux articles ont été écrits. C'est pour ça. Mais les décrets d'août 1789, tu peux mettre où.
Si on doit résumer cette série de décrets qui met un point final à la société de l'Ancien Régime, alors il n'y a plus d'ordre, plus de privilèges, tous les droits seigneuriaux sont supprimés, ainsi que de nombreux impôts féodaux. La justice est centralisée à Paris, et où que l'on soit dans le royaume, tout le monde est soumis aux mêmes lois, aux mêmes droits et aux mêmes privilèges. Bon, ça c'est déjà une révolution. Mais on n'est quand même pas au bout de l'aventure. Après avoir pris ces mesures pour essayer d'apaiser les jacqueries dans les provinces, j'imagine que l'Assemblée nationale a pu reprendre son travail autour de la rédaction d'une constitution.
Oui, on s'y remet en suivant la proposition du député Mounier, qui était, rappelez-vous, déjà à l'origine du serment du jeu de pommes, qui demandait à ce que la constitution soit précédée d'une déclaration qui listerait les droits de tous les individus du royaume. Après le vote de l'ensemble des décrets sur l'abolition des privilèges qui s'est fait, on l'a dit, entre le 4 et le 11 août, les députés commencent à travailler sur ce nouveau projet. Plusieurs bureaux réfléchissent donc à la création de cette série de droits fondamentaux. Le 17 août 1789, un petit comité de députés présente un projet dit de « déclaration des droits de l'homme en société ». Le travail continue jusqu'au 26 août 1789 où l'Assemblée nationale adopte le texte et déclare
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle borne quant à présent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux 17 articles qu'elle a arrêtés et qu'elle va procéder sans délai à fixer la constitution de la France pour assurer la prospérité publique, sauf à ajouter après le travail de la constitution les articles qu'elle croirait nécessaires pour compléter la déclaration des droits. »
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment.
Extrait du film La Révolution française, réalisé par Robert Enrico et Richard Efron en 1989. Raphaël, on retrouve là la grande influence qu'ont joué les Lumières.
Oui, tout à fait, mais pas seulement les Lumières. On reconnaît aussi l'influence de la Déclaration d'indépendance américaine dans l'idéal révolutionnaire de 1789, mais aussi le Bill of Rights, c'est-à-dire la Charte des droits de 1689 qui avait mis fin à la monarchie absolue en Angleterre et qui avait déjà eu en son temps, qui avait déjà adopté en son temps les principes des libertés individuelles, de l'habeas corpus et de la monarchie constitutionnelle. On retrouvait d'ailleurs l'éloge de ce texte chez Voltaire dans Les Lettres philosophiques en 1734, où il soulignait son admiration du respect de la liberté d'expression outre-Manche. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Bon, tout cela a donc abouti à la naissance de ce texte fondamental dont nous connaissons tous l'influence dans le monde jusqu'à la proclamation de 1948 par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en 1789, ce texte ne sert que de préambule à la Constitution que doit écrire l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres péripéties lors de cette rédaction ?
Malheureusement, oui, puisqu'il y a de nombreux débats et qu'il fallut encore 2 ans pour que la France réussisse à ratifier sa première Constitution. On commence cependant à faire passer au vote les premiers articles dès le mois de septembre 1789. Mais déjà, l'Assemblée se divise. Certains craignent l'accentuation des troubles liés aux jacqueries et souhaiteraient donc la mise en place d'un pouvoir fort avec un roi ayant un droit de veto absolu sur toutes les décisions du Parlement. Et fort de ce soutien inespéré, au sein même de l'Assemblée constituante, le roi en profite pour ne pas ratifier les décrets du 4 août. Mais cela entraîne la colère des Parisiens, d'autant plus que le chômage et l'inflation s'accentuent. Le point d'orgue de ce mécontentement est atteint au lendemain du 1er octobre 1789, date à laquelle un banquet était organisé à Versailles en l'honneur des gardes du corps du roi. Durant ce dîner, la cocarde tricolore des membres présents de la garde nationale leur aurait été arrachée, puis, selon certains, aurait été piétinée. Le matin du 5 octobre, tôt le matin, les Parisiennes, cherchant du pain dans les boulangeries de Paris, se seraient rassemblées sur la place de l'Hôtel de Ville et se décidèrent à aller chercher directement le souverain à Versailles. Elles demandent principalement une livraison du pain pour la capitale. Mais dans la nuit, des échafourées éclatèrent et un garde est tué. Le 6 octobre, les émeutières rejointes par des émeutiers entrent dans le château de Versailles et des affrontements violents ont lieu, si bien que 2 gardes sont tués, leurs têtes plantées au bout d'une pique. Après de nouvelles négociations et le ralliement des gardes du corps et des gardes nationaux, le peuple obtient le retour du roi et de sa famille à Paris ainsi que l'Assemblée nationale, désormais, entre guillemets, enfermée dans Paris.
Et ouais, c'est alors que... Et oui, et c'est lors de cet épisode que les manifestants de retour sur Paris crient « Nous ramènerons le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Est-ce que cette relocalisation du roi dans Paris a une influence sur la marche de la Révolution ?
Ça a une incidence puisque les mois qui suivent, l'Assemblée vote d'importantes lois sur les modes d'élection censitaires et l'organisation du territoire en municipalité et en département. Et docilement, le roi les ratifie toutes le 4 février 1790.
Et vint ensuite le 14 juillet 1790, où on fête la Fédération. C'est la célébration de l'unité nationale un an après la prise de la Bastille, où le roi et la nation se sont enfin rencontrés. C'est encore aujourd'hui d'ailleurs cette célébration que nous commémorons chaque année lors de notre fête nationale, et non pas la prise de la Bastille de 1789. À ce moment-là, beaucoup de chemin a été parcouru, puisqu'en un an, alors que la France était encore au bord de la guerre civile au mois de mai 1789, c'est tout l'ancien régime qui a été renversé. L'abolition des privilèges confirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacra la fin de la société en 3 ordres, et tout cela avec l'approbation officielle du roi de France. La monarchie absolue est-elle aussi morte, en même temps que la naissance d'une assemblée nationale qui veille déjà à doter le pays d'une constitution qui veillerait à la séparation stricte des pouvoirs et ainsi empêcher toute tyrannie. Tout est dit, ou presque. La boucle semble, en ce jour de fête, bouclée. La révolution pourrait alors être terminée.
Mais l'histoire nous a appris qu'il n'en était rien. Lors du prochain épisode de Clin d'œil à l'histoire, nous verrons comment les étincelles de l'été 1789 ont déclenché une explosion de violence en France et en Europe.
C'était Clin d'œil à l'histoire, préparé et présenté par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas 107 FM.